Nous sommes très heureux de nous retrouver ce soir. Je ne sais pas si c'est le fait que certains d'entre vous chantent dans la chorale qui a produit la marée montante que j'attendais depuis hier soir. Vous avez compris, pour ceux qui étaient là hier soir, j'étais très heureux d'avoir des gens presque à mes côtés. Il y avait juste une chaise de différence. Ça devient bon. J'espère que nous allons continuer ainsi et que d'ici dimanche matin, oh, le dimanche, le problème ne se pose pas. Mais jusqu'à samedi soir, quelqu'un sera peut-être assis sur mes genoux, n'est-ce pas? Nous allons nous pencher à nouveau sur le livre, comme disait Walter Scott, le livre, la Bible, pour lire un passage très important, fondamental, dans le deuxième livre de la Bible, le livre de l'Exode. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le chapitre 20 de ce livre pour en lire quelques versets, les versets 1 à 17. Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. En évoquant, dès hier soir, cette crise qui secoue notre humanité, nous nous sommes plongés dans une réflexion sur ce que j'ai appelé le problème de base, à savoir le problème de la mort de Dieu. Nous avons évoqué hier soir cette question de l'athéisme, que fallait-il en penser, et quelles étaient les réponses que les croyants avaient à apporter de la part de Dieu à leurs contemporains qui s'étiquetaient, qui s'affichaient athées. Nous voulons ce soir, toujours dans le cadre de ce monde en crise, faire un pas supplémentaire. Nous allons peu à peu affiner notre réflexion pour entrer dans des problèmes de plus en plus pratiques d'ici dimanche. J'aimerais ce soir avec vous constater, au-delà de tout ce que nous disions déjà hier soir, constater la marée montante de l'anarchie. On m'a déjà soufflé à l'oreille dès mon arrivée hier que Mulhouse, paraît-il, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je me protège. Mais on m'a dit, on m'a laissé entendre que Mulhouse était une ville dans laquelle il ne faisait pas forcément très bon vivre. À certaines heures du soir, surtout dans certains quartiers, et que les voleurs, par exemple, se plaisaient dans la belle Alsace et surtout dans la région de Mulhouse. Je dois dire que pour moi qui voyage beaucoup, on me dit cela actuellement un peu partout. Et en tout endroit de France, on me dit, mais vous savez, ici c'est pire qu'ailleurs. Alors je commence à me poser de sérieuses questions. Comme je le disais hier, je rentre d'Afrique et dans certains pays d'Afrique, les concessions missionnaires, les stations missionnaires se sont parfois même entourées de tout un système de repères, de détection électronique pour se protéger des voleurs. Tant qu'il y a de problèmes dans ce domaine, voyez que nous n'avons peut-être pas forcément la palme comme nous pourrions le croire. Mais disons-le quand même, nous sommes dans un monde de désordre, dans un monde de contestation des lois les plus fondamentales. Et vous savez qu'en France, la loi est d'une manière toute particulière faite pour être contournée. Ça, c'est tout à fait dans le tempérament français. Il y a des lois, mais c'est pour qu'on ait le plaisir de les trafiquer, de les contourner et de les violer. Pierre Gaxot, qui est maintenant décédé, qui était de l'Académie française, a dit ceci, nous en sommes aujourd'hui à la destruction de la loi morale. Le refus du sacrifice, le refus de l'enfant, le refus de la loi, le refus de l'effort, façonneront de plus en plus des générations qui revendiqueront des droits et ricaneront quand on leur parlera de devoir. Dans l'introduction d'un livre, ou même dans une de ses parties évoquant la vie à New York, l'auteur de décrire de manière très ramassée le climat de certains quartiers, de ces rues chaudes de New York, de dire ceci, les rues chaudes de New York hébergeaient la moitié des drogués d'Amérique. Ces commissariats de police enregistraient une urgence toutes les secondes, un vol toutes les 3 minutes, un hold-up chaque quart d'heure, 2 viols et un meurtre toutes les 5 heures, un suicide et une mort par overdose de drogue toutes les 7 heures, 20 000 prostituées, plus que n'en comptaient Paris, Londres, Rome et Tokyo réunis, faisaient de New York la capitale mondiale de la débauche et du vice. De quoi nous faire frissonner. Et cette croissance de l'anarchie peut être mesurée. Nous évoquions à l'instant New York. Vous savez peut-être qu'en 1965, il y a eu à New York une panne de courant qui a littéralement paralysé cette mégalopolis durant 36 heures. 36 heures de panne de courant. Et on a pu constater qu'il y a eu, à l'occasion de ces 36 heures de panne, quelques petits désordres, bien minces, pour une si grande cité. Il se trouve que le 13 juillet 1977, et je m'en souviens très bien, il y a eu une nouvelle panne, dans la même ville, semblable à la précédente, à peu près de même durée, et qui, elle, a déclenché un véritable raz-de-marée incroyable de violence et de désordre. Quel changement sur une douzaine d'années. Nous avons évoqué hier soir le docteur Alexis Carrel. Alexis Carrel a écrit avant de mourir ceci. La morale garantit la survie non seulement de l'individu, mais aussi de la nation. Je le dis à la nouvelle génération, seule, les règles de la morale permettront la survie de notre civilisation et la connaissance des lois de la morale est aussi nécessaire à la survie de l'individu que celle des lois de la physique et de la physiologie. J'aimerais dire ce soir, tout d'abord de la part de Dieu, très clairement que la Bible souligne le caractère anarchique, le caractère chaotique du monde d'aujourd'hui. Nous avons d'ailleurs évoqué ce verset sur lequel nous reviendrons encore sans doute samedi soir, dans lequel Jésus, évoquant les temps de la fin, ceux dans lesquels je crois que nous sommes entrés, sans vouloir être prophètes de malheur, nous devons clairement réfléchir, nous poser un certain nombre de questions, voyant ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui, nous l'avons souligné hier, et Jésus, évoquant ces temps de la fin, disait que parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour se refroidira. Vous vous souvenez, vous qui étiez là, nous avons quelque peu commenté cette affirmation de Jésus hier soir. Le terme iniquité est un terme intéressant. Il signifie très exactement l'indifférence à l'égard de la loi. Anomia. Nous avons dans notre langue française le terme anomia ou antinomia, antinomie. C'est cette attitude d'indifférence, voire d'hostilité de celui qui n'admet pas la loi, de celui qui ne se soumet pas à la loi, de celui qui vit sans loi. Jésus disait donc que parce que le nombre de personnes n'admettant pas la loi grandira de plus en plus sensiblement, dans le même temps et parallèlement, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'apôtre Paul a repris ce thème. Et évoquant lui aussi la fin des temps, l'apôtre Paul évoque un personnage que nous voyons peu à peu pointer à l'horizon. Peut-être est-il dans son berceau, peut-être est-il déjà adolescent, peut-être est-il en train de se préparer à ses fonctions futures dans une université quelconque du monde, mais nous croyons que son apparition est proche et elle est réclamée. Je n'ai pas ici de citation, mais nous aurions pu le faire, d'hommes, de grands politiciens de notre temps qui réclament à corps et à cris, dans toutes sortes d'assemblées internationales, l'apparition de cet homme, qui sera en quelque sorte le sauveur de l'humanité. Tant les plus grands cerveaux de notre temps sont empêtrés dans ces problèmes insurmontables qui assaillent le monde d'aujourd'hui. Et ce personnage mondial des ultimes heures de notre humanité porte un curieux nom. Il s'appelle l'Anomos. L'Antichrist est appelé très exactement l'homme de l'iniquité. Dans la deuxième aux Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 8, ceci est parfois traduit par l'expression l'impie. Qui est l'Antichrist? Sinon, tout d'abord, celui qui rejette les lois de Dieu. Mais il les rejette pour mettre, bien sûr, ses propres lois iniques, injustes, à la place. Et je dois dire que quand nous voyons peu à peu l'évolution des lois françaises et ce que l'on est en train de nous préparer, de nous concocter comme code pénal, je me pose un certain nombre de questions. Parce que nous sommes en train de voir se préparer un certain nombre de lois qui vont de plus en plus nous poser de sérieuses questions à nous qui appartenons à Jésus-Christ. Parce que manifestement, ces lois n'ont plus rien à voir avec la pensée de Dieu, avec la loi de Dieu. Alors que, en grande majorité, les lois que nous avons eues jusqu'à présent s'inspiraient très largement des lois inscrites dans la parole de Dieu, comme nous allons le voir. Et disons-le, cet antichrist, ce personnage de la fin des temps qui détiendra un pouvoir absolu et qui utilisera les moyens de notre temps, ces moyens extraordinaires de dimension universelle, cosmique, eh bien Hitler, Néron et les autres potentats qui l'ont précédé n'auront été que des enfants de cœur à côté de lui. Je me pose une question. Lorsque je vois ma génération, mes contemporains, s'acharner de plus en plus et avec une telle haine gratuite contre la loi de Dieu, contre les lois, est-ce que les commandements de Dieu, qui ont inspiré notre code pénal notamment, sont si mauvais que cela? C'est une question que nous devrions nous poser. Est-ce qu'il est légitime de les remettre en cause? Est-ce que vraiment nous devons aller dans le sens des pressions qui s'exercent de plus en plus afin que ces lois changent? À cet égard, dans une institution de jeunes, aux États-Unis, un directeur a fait une expérience extrêmement intéressante. Il s'agit d'une maison qui reçoit des jeunes en situation difficile, ayant peut-être de mauvaises relations au niveau familial. Et la direction de cette maison se réclamait de Dieu, de Jésus-Christ, et désirait que, pour un sain climat, un climat agréable, une bonne cohabitation dans cette maison, on ait pour base ce code moral, cette loi de Dieu dont nous avons lu le sommaire. Étant donné que Exode chapitre 20 n'est qu'un sommaire de la loi de Dieu, les 10 commandements ne représentent pas toute la loi de Dieu. C'est un résumé de la loi de Dieu qui est contenu dans l'ensemble des Écritures. Et quand Jésus dira que la loi de Dieu est résumée dans ses commandements, ces 2 commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, tu aimeras ton prochain comme toi-même, en fait, il donnera le sommaire du sommaire, n'est-ce pas? Nous avons la loi de Dieu dans l'ensemble des Écritures, nous avons le sommaire de la loi dans les 10 commandements, et nous avons le sommaire du sommaire de la loi dans les 2 commandements que Jésus-Christ a apporté à sa génération, mais pour le monde de tous les temps. Et voilà qu'un jour, dans cette institution, le directeur d'apprendre que Tom, l'un des jeunes qui était confié à cette institution, ne voulait même pas d'un minimum d'obligation morale. Il avait décidé de discuter avec ses copains, et ses copains l'avaient délégué auprès du directeur pour dire qu'à 14 ans, il est normal d'envisager l'existence sous un autre jour que celui de l'obéissance à un certain nombre de lois. Il était nécessaire de vivre un petit peu plus n'importe comment. À la grande surprise de Tom, le directeur tout d'abord de l'écouter très sagement, sans intervenir, et après une écoute attentive de lui dire « Écoute, Tom, eh bien, d'accord, j'entre dans le jeu. Puisque tu ne veux pas, et avec tes camarades, vous ne voulez pas de loi dans notre institution, eh bien, je veux bien. Je veux bien. Nous allons vivre ainsi pendant un certain temps. » Le jeune, fier comme un coq, de rapporter à ses camarades la réponse affirmative de la part de la direction, de quoi faire un bon chef syndicaliste. Dans la semaine qui suivit, le directeur fait sa ronde nocturne dans les chambres des jeunes. Il s'arrête auprès du lit où Tom, tel un ange, dort de son plus doux sommeil, et il lui dérobe son album de timbres. La nuit d'après, il repasse dans la chambre et il vole à Tom son stylo à billes, puis une modique somme d'argent. Et il attend. Et bien sûr, très rapidement, Tom se présente, véritable navette spatiale, dans sa vitesse la plus impressionnante au bureau, en proie à la plus vive agitation, en lui disant « Monsieur le directeur, on m'a volé mon album de timbre et mon stylo et une somme d'argent. » Et à sa grande stupéfaction, le directeur de ne pas sortir de ses gonds. Et lui répondre, mais Tom, dis-moi, mais qu'y a-t-il d'injuste à cela? Comment? Est-ce que ce n'est pas injuste de voler? Ça m'appartient, c'est mon bien. Mais comment, Tom, dis-moi, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est injuste? Est-ce que nous n'avons pas convenu que désormais dans notre institution, nous n'aurions plus de loi. Tu sais, il y a un commandement qui dit « tu ne déroberas point ». Mais nous avons bien décidé ensemble, tu es d'accord, d'annuler ce commandement. Oui. Et voilà que le directeur, devint homme à la fois coincé et tout ébahi, d'ouvrir le tiroir de son bureau et d'en sortir les objets en question. Et de lui dire d'un ton ingénu, mais si ce simple vol te touche pareillement, je veux bien te rendre tes affaires. Et vous imaginez un petit peu les yeux de Tom, qui sortaient littéralement de leurs orbites. Comment ? C'est vous, monsieur le directeur, qui m'avez pris ça ? Ben naturellement, Tom, j'agis maintenant d'après notre principe, selon lequel le vol n'est pas défendu. Ah, tout de même, monsieur le directeur, je ne m'attendais pas à cela de vous. Eh, peut-être, mais Tom, est-ce que ce n'est pas logique ? Alors Tom, d'être d'accord, de rétablir la loi concernant le vol. Un peu plus tard, Tom d'être à nouveau invité dans le bureau du directeur qui lui dit, un merveilleux sourire au visage, « Tom, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ta mère viendra te rendre visite samedi et il faudra qu'à 10h tu sois prêt à la recevoir. 9h30 déjà, Tom est là sur son 32. C'est mieux. Et il attend. 10h sonne à l'horloge de l'institution, puis 10h15, puis 10h30, puis 11h. Pas de maman. Alors Tom d'aller vers le bureau du directeur et lui dire, écoutez, monsieur le directeur, maman n'est pas venue. Tu l'as vraiment attendu, ta maman ? « Mais oui, monsieur le directeur. Et vous m'aviez dit qu'elle viendrait. Comment ? Moi, je t'ai dit que ta maman allait venir. Tu plaisantes ? Vous imaginez, Tom, il était rouge d'indignation. Comment osez-vous affirmer n'avoir dit cela ? C'est un mensonge pur et simple, vraiment ? Et quand ça le serait ? Eh bien, ça voudrait dire que je ne peux pas avoir la moindre confiance en vous. » Parce que si les gens se mettent à ne plus dire toujours la vérité, on ne sait plus si on doit les croire ou non. Tom, dans ce cas, nous ferions bien de rétablir le commandement relatif au faux témoignage. D'accord. Et finalement, Tom d'accepter de s'asseoir à côté du directeur, de prendre une feuille de papier et de mettre au point, avec le concours des camarades de Tom, un règlement de vie pour la maison. Une fois que les différents articles étaient mis au point, le directeur de sourire et de leur dire, écoutez, lisez bien le règlement. Et dites-moi quelle est votre impression. Et l'impression était toute simple. C'était à peu de choses près le contenu de ces fameux 10 commandements que l'on haïssait si peu de temps auparavant. C'est une expérience authentique, vécue dans une institution aux États-Unis. Ce qui signifie que, même en dehors de la foi, les 10 commandements se défendent sur le terrain de la pratique. Il n'est pas nécessaire de se réclamer de Jésus-Christ, mais il suffit d'avoir un peu de bon sens pour se rendre compte de la nécessité d'un certain nombre de lois fondamentales pour la cohabitation des êtres sur la terre. Bien sûr, il faudrait ce soir passer du temps pour évoquer le cheminement de l'histoire qui, dans notre pays, a conduit jusqu'à cet état de fait actuellement. Nous disions tout à l'heure que notre code civil s'appuyait sur la loi de Dieu. Et ceci est lié, en particulier, j'ose le dire, notamment au rayonnement de la Réforme au XVIe siècle, de l'impact extraordinaire de la Bible sur la société. Je pense ici à ce livre remarquable d'Alain Perfit, Le mal français, dans lequel Alain Perfit évoquera cette révolution mentale, n'allant pas, hélas, jusqu'à reconnaître l'importance de la Bible dans cette révolution, et c'est dommage pour un grand historien. Et cette révolution mentale aux conséquences remarquables. Et puis vous savez, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, avec la révocation de l'édit de Nantes, dont nous venons de fêter le tricentenaire, cette éradication terrifiante de la Bible, cette décapitation de la société commerçante, de l'élite de notre nation, qui est allée se réfugier dans quantité de pays du monde, et qui a emporté avec elle toute cette richesse, toute cette ingéniosité, toute cette intelligence, tout ce dynamisme que crée la Bible chez ceux qui s'approchent de Dieu et qui mettent leur foi en Jésus-Christ. La France a été saignée, n'est-ce pas, à blanc, au travers de cette contre-réforme. Et c'est hélas aussi sur cette base, disons-le, que se sont développés ces courants philosophiques que nous avons très rapidement évoqués hier soir et qui ont remis en question les grandes notions de Dieu, de la loi, de l'autorité, des miracles, l'ère des grandes découvertes scientifiques qui a fait dire aux hommes que désormais croire en Dieu était démodé, que la science allait tout expliquer. Ce fut le début de l'ère du rationalisme. N'est acceptable que ce qui se raisonne, ce qui s'explique. Donc comment peut-on croire en Dieu? Comment est-il possible de croire au miracle? Ce fut la naissance de l'ère du relativisme. L'absolu n'existe pas. Il n'y a ni mal, ni bien. Non à la loi de Dieu. Ce fut l'ère de la permissivité. Et nous pourrions ici citer tant d'êtres, tant de personnages, tant de philosophes dont se repaissent les étudiants dans nos facultés à l'heure actuelle, Kant, Hegel, Kierkegaard, Darwin, dont Marx et Engels vont s'inspirer. Lénine, disciple des deux derniers, qui dira par exemple, pour anéantir une nation, il nous faut d'abord détruire sa morale. Alors cette nation tombera comme un fruit mûr entre nos mains. Nous devons être prêts à employer la fourberie, la tromperie, la violation des lois, à nier et à cacher la vérité. Oh, ceci est vite dit ce soir. Mais il vaut la peine d'analyser comment nous en sommes arrivés à notre temps. Et puis Freud. Freud qui est certainement l'homme qui marque le plus encore à l'heure actuelle la société française. Au point que, comme dans Le Bourgeois Gentilhomme, beaucoup de Français sont freudiens, sans le savoir. Et parfois, beaucoup d'évangéliques, pardon de le dire, sont plus marqués par Freud que par la Bible, parce qu'ils lisent trop peu leur Bible. Freud, qu'est-ce que c'est? Il faut suivre les impulsions de sa nature. Il faut suivre ses instincts, être soi-même. Refuser d'être brimé, réprimé, canalisé par des lois, parce que ça bloque, ça complexe, ça crée des névroses. Ce pauvre petit chéri, quand il reçoit une fessée, ça le marque pour la vie, n'est-ce pas? Pourtant, j'en ai reçu des fessées. Et je suis un névrosé. Plaignez-moi, mes chers bien-aimés. Alors, Freud dit que l'homme doit être débloqué pour être heureux. Il faut donc qu'il puisse faire ce que la loi lui interdit. Et la norme de l'homme d'aujourd'hui, c'est ce qu'il ressent. C'est ce qui lui fait plaisir. Pas besoin d'un Dieu, pas besoin d'un père qui dirige, qui interdit, qui brime. Tuons le père. Et derrière ce père se cache la personne de Dieu. D'où la crise d'autorité qui s'est développée dans le monde d'aujourd'hui. La loi est traumatisante, elle est contraignante, elle est anti-liberté. Ce n'est pas notre thème ce soir, mais nous aurions pu évoquer durant ces soirs le problème des libertés. Savez-vous d'où vient notre mot français liberté? Il vient du latin liber. Et liber, c'était la divinité romaine de l'anarchie. Oui? du désordre. C'est curieux, n'est-ce pas? Alors, ce que j'aimerais voir ce soir dans la seconde partie de mon analyse, ce que j'aimerais voir, c'est ce pourquoi la loi de Dieu nous a été donnée. Pourquoi Dieu a donné des lois aux hommes? Qu'est-ce qu'il avait donc derrière la tête? Nous avons parlé de son existence, de son expérience hier. Ce soir, nous parlons de son action. Tout d'abord, nous dirons ceci, c'est que la loi de Dieu a été donnée comme maître étalon, comme garde-fou, comme point de repère. Dans une des lettres de l'apôtre Paul, écrites aux croyants de l'actuelle Turquie, l'épître aux Galates, dans Galates 3, 19, l'apôtre Paul dira de la part de Dieu que la loi a été donnée à cause des transgressions. À cause des transgressions. Qu'est-ce que cela veut dire? L'apôtre Paul fait allusion à l'histoire du peuple d'Israël. Et d'ailleurs, on peut remonter plus loin, à l'origine de notre humanité, selon les Écritures. Lorsque l'homme a fait sa crise d'indépendance, a désiré organiser sa vie en dehors de la loi de Dieu, pensant pouvoir vivre dans l'autonomie, déjà dans le jardin, dans ce paradis. Il s'est donc peu à peu, nous disent les Écritures, éloigné de Dieu. Dieu s'est alors choisi un peuple, et je résume ici le beau message de la Bible, Dieu s'est alors choisi un peuple pour être en quelque sorte la lumière des nations, pour montrer ce que pouvait valoir au sein d'un peuple le règne de Dieu, pour créer une jalousie à salut dans le cœur de toutes les nations du monde, de manière à ce qu'à l'heure où le Christ, Fils de Dieu, viendrait au milieu des hommes et sur la terre d'Israël, les nations acceptent de se tourner vers ce Christ et retrouvent une relation juste avec Dieu. Et dans les premiers livres de la Bible, dans le début du livre de l'Exode, dont nous avons lu une partie du chapitre 20, il est donc question de ce temps très difficile qu'a connu le peuple d'Israël durant plus de 4 siècles, lorsqu'il était en Égypte et plongé de plus en plus dans de grandes souffrances, et peu à peu s'identifiant, vivant de plus en plus comme le peuple d'Égypte, se plongeant dans l'idolâtrie égyptienne. Et peu à peu, cette distinction qui aurait dû exister entre le peuple d'Israël et les nations environnantes s'estompait, ce peuple imitant de plus en plus cette grande nation égyptienne. Aussi, la première chose que Dieu a fait en sortant le peuple d'Israël de la terre égyptienne a été de lui donner la loi. Tout simplement parce que Dieu avait cessé d'être le point de repère de la conscience des hommes. Nous avons parlé hier de la conscience, de cette loi que Dieu a placée dans chacun de nos cœurs. Les Indiens, les Amérindiens ont une définition de la conscience qui est à la fois amusante et très riche de sens. La conscience, c'est une petite chose à 3 cornes qui se trouve en moi. Si je fais le mal, cela se met à tourner et me blesse énormément. Et si je continue à mal faire, cela tourne tellement vite que les cornes s'usent et ne me blessent plus du tout. Et nous savons ce que cela veut dire. Cette voix intérieure, cette voix de Dieu, cette lampe intérieure. La Bible parle d'une lampe intérieure. Jésus parlait d'un œil intérieur. Et si ton œil intérieur est aveugle, si la lumière qui est en toi est trouble, si elle devient obscure, alors bien sûr tu es un être terriblement malade. Et bien sûr la conscience du peuple d'Israël est devenue de plus en plus faussée, déboussolée, conditionnée, déréglée, émoussée, détraquée. L'homme ne pouvait plus exactement discerner quand il s'écartait du bien pour faire le mal. Et c'est là notre monde aujourd'hui. Dites-moi où est la différence entre le mal et le bien aujourd'hui. Écoutez, là aussi, ces jours-ci, nos hommes politiques donner leur définition de ce qui est bien et de ce qui est mal. Quelle évolution continuelle! Et il y a une insécurité de plus en plus dans le cœur de l'homme de la rue parce qu'il se rend compte que continuellement, ce maître étalon est en train de changer. Ce qui était bien hier est devenu mauvais aujourd'hui, ce qui était mauvais hier est devenu bon aujourd'hui. Cela fait penser à ce missionnaire qui, parlant à un cannibale, lui posait la question, mais dis pour toi, qu'est-ce que c'est que le bien et le mal? Alors le cannibale, de sourire en montrant ses dents bien aiguisées, le mal, c'est quand toi manges moi, et le bien, c'est quand moi mange toi. Et je pense à ce que disait Göring, un des bras droits d'Hitler, lorsqu'il affirmait « Ma conscience à moi, c'est mon Führer ». Je pense à la loi sur l'avortement, à Simone Veil, qui défendant sa loi devant le Parlement disait « Mais je voudrais que vous votiez cette loi et je la défends au nom de ma conscience ». Je dirais que la conscience, c'est un petit peu comme une montre. Dieu donne l'heure exacte à celui qui s'approche de lui, à celui qui accepte de vivre en relation avec lui. Alors il y a sur la terre et dans notre beau pays de France et dans notre ville de Mulhouse et peut-être ici ce soir, des millions d'hommes qui ne consultent pas Dieu pour régler leur montre. Imaginez que dans mes voyages outre-mer, je néglige de régler ma montre. Lorsque je vais aux Antilles, 5, 6 heures de décalage horaire, et donc qu'arrivant là-bas, je continue à vivre à l'heure française. Vous imaginez un peu. D'ailleurs, j'ai vécu des moments très épiques là-bas, lorsque le gouvernement français, il y a quelques années, dans ses jolis bureaux de Paris, a décidé qu'il fallait aussi changer d'heure, au printemps et en automne, aux Antilles. Vous imaginez un peu. Alors que là-bas, vous savez que tout au long de l'année, le soleil se lève à 6 heures et des poussières et se couche à 6 heures du soir. Mais on avait décrété à Paris qu'il fallait qu'aux Antilles, ça change aussi. Et il se trouve que je suis arrivé là-bas, juste au moment du changement horaire, avec tout un mois de conférences. Je vous assure que nous nous sommes amusés. Parce que nos braves amis antillais étaient complètement dépassés, vous vous rendez compte. Changer l'heure, mais pourquoi ? D'ailleurs, au bout de 15 jours, le gouvernement français était tellement affolé par le résultat qu'on a rapporté la mesure. Mais le mal était fait. Quel est notre point de repère dans notre vie? Pourquoi tant d'angoisse? Pourquoi un certain nombre de dépressions? Je ne voudrais pas mettre toutes les dépressions dans ce lot. Mais pourquoi un certain nombre de dépressions? Pourquoi ce sentiment d'insécurité? Sinon, à cause dans nos vies de ce manque de points de repère. Mais pour vous, qui appartenez au Christ, pourquoi parfois ce sentiment d'insécurité? Pourquoi ces angoisses? Tout simplement, lorsque vous vous écartez de ce maître étalon qu'est la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu devient floue dans la vie du croyant, naît aussitôt un sentiment d'insécurité. Et l'angoisse de l'absence de points de repère solides, sûrs, fiables. Et vous le savez, que d'inquisition, que de guerre sainte, que d'enlèvement, que d'avortement, que de génocide, fait avec une bonne conscience complètement détraquée. Et parfois, oui, reconnaissons-le, au nom de la religion, qui même lorsqu'elle se réclame de Jésus-Christ ou de la Bible, n'a pas toujours grand-chose à voir avec ce que nous dit la Bible. Alors la loi de Dieu, c'est l'horloge morale du monde. La loi de Dieu, c'est la pensée de Dieu. C'est le caractère de Dieu. C'est en quelque sorte la définition de sa volonté pour le bonheur des hommes. Lorsque je lisais tout à l'heure les 10 commandements, j'affirmais ce qu'est la volonté de Dieu. Ce que Dieu a de meilleur pour le bonheur des hommes. Et ce qui est merveilleux, c'est que cette loi de Dieu est un point de repère objectif, c'est-à-dire extérieur à l'homme. L'homme n'a pas à manipuler, il n'y a rien de subjectif, elle n'est pas changeante continuellement, au gré des circonstances, quand ça nous arrange ou quand ça nous dérange. Ou encore, nous pourrions comparer la loi de Dieu aux lunettes de Dieu. Comme si Dieu portait des lunettes qu'il veuille mettre sur nos yeux malades, affaiblis, tantôt myopes, tantôt hypermétropes, astigmates ou quoi que ce soit d'autre, n'est-ce pas? Cela me rappelle ce qui m'arrivait en 1968, j'étais étudiant en Suisse, et je me rendais compte depuis un certain temps que ma vue baissait, jusqu'au jour donc où j'ai consulté un oculiste, je suis allé chez l'opticien, je suis ressorti un matin de janvier 1968 avec une belle paire de lunettes sur les yeux. Et j'ai fait ce que l'on fait habituellement quand on porte des lunettes pour la première fois, n'est-ce pas, j'ai fait ceci. Comme ce soir, c'est très intéressant. Et je me souviendrai toujours de ma réaction. Je n'avais pas mon permis de conduire à cette époque. Je ne sais pas si j'ai béni Dieu pour cela. Mais en tout cas, j'ai dit, mais heureusement, Maurice, que tu n'as pas ton permis de conduire. Parce que tu en aurais écrasé non seulement des canards, mais des gens plus grands que des canards. Je me suis rendu compte que mon problème était beaucoup plus important encore que je l'avais cru jusque-là. C'est vrai que la loi de Dieu, c'est comment Dieu voit le bien et comment il voit le mal. Et voyez-vous, la première chose que Dieu nous demande de faire, c'est d'enfiler les lunettes de sa loi. Il n'y a pas possibilité de trouver le bonheur authentique sans commencer par enfiler, par mettre sur le bout de son nez moral ses lunettes de la loi de Dieu. C'est là la première étape vers le bonheur. Nous venons de dire donc que la loi est un maître étalon. Elle est un point de repère, elle est un garde-fou. Elle exprime la volonté de Dieu pour le bonheur de l'homme. Elle définit ce qu'est le bien et le mal pour que l'homme puisse vivre heureux. Ah, mais c'est que quand on met ses lunettes sur le bout du nez de son cœur, curieusement, la loi de Dieu se déguise. La loi de Dieu aime carnaval. Et elle devient d'un instant à l'autre, tout d'abord révélatrice ou un révélateur, un provocateur et enfin un procureur général. Elle révèle. La loi de Dieu a ceci de particulier, c'est qu'elle nous met mal à l'aise. Et si ce soir nous sommes tant soit peu intègres dans notre cœur, si nous avons soif de vérité, et j'ose croire que nous sommes ici parce que nous avons dans notre cœur une soif de vraie vérité et non pas de vérité au rabais. Eh bien, dans la mesure où nous avons cette soif de vérité, nous n'avons pu ce soir qu'être repris simplement par la lecture des quelques versets d'Exode 20. Il n'est pas nécessaire d'avoir 3 bacs et 4 licences pour comprendre le texte d'Exode 20, ces 10 commandements. Oui, la loi révèle. La loi met terriblement mal à l'aise. La Bible va même plus loin puisqu'elle dit que la loi provoque le péché, la coquine. Et vous savez que c'est vrai, nous le savons fort bien, nous Français. Quand vous dites au petit garçon ou à la petite fille dans votre foyer, dans la confiture, vous savez que si vous tournez le dos, vous trouverez des marques dans la confiture. Plus vous multipliez les interdictions, plus vous provoquez. Et je dirais que c'est là la preuve que notre cœur est mauvais. La loi de Dieu excite, c'est-à-dire justement qu'elle révèle notre état intérieur. Roulez tranquillement sur une route, vous vous faites arrêter, on vous fait remarquer qu'il y avait un panneau, vous ne l'avez pas vu. Il a été installé là il y a très très peu de temps, et vous savez, la force de l'habitude, on ne voit pas ce qui est visible. Mais vous rouliez tranquille. Mais à partir du moment où on dit, vous voyez, il y a un panneau là, provocation. Et la loi de Dieu a été donnée précisément pour nous provoquer, pour nous révéler les turpitudes de notre cœur intérieur, pour montrer que l'homme ne naît pas bon, et que ce n'est pas la société qu'il corrompt. Il y a trois réactions possibles face à la loi de Dieu. Et ces réactions, nous pouvons les avoir ce soir. Bien, il y a ceux qui cassent les lunettes. Il y a ceux qui ne veulent pas accepter le message de la Bible. Parce qu'il les dérange. Ils ont lu un petit peu la Bible, ils ont entendu le message de l'Évangile, ils ont écouté le témoignage d'authentiques croyants. Et plus ils lisent la Bible, plus ils sont mal à l'aise. Alors certains referment la Bible et disent « La Bible est un tissu de mensonges. Comment voulez-vous que je croie à ce livre ?» C'est là leur argument. Mais ce n'est pas là forcément leur raison profonde. Ils ont été dérangés et ils éprouvent le besoin de trouver des alibis parce qu'ils se sont vus dans leur véritable état intérieur. Oh, il y a ceux qui, à l'instar de certains théologiens, tout en se réclamant de Dieu, qui préfèrent colorer les verres. J'ai porté pendant un certain nombre d'années, avant d'avoir ces verres gris qui changent au fil de la luminosité, des verres colorés. Et c'était des verres colorés dans une certaine couleur rose, ce qui me permettait de voir la vie en rose. Alors il y a à Mulhouse, à Strasbourg, comme partout dans le monde, de ces hommes, de ces femmes, qui parfois même, pasteurs, docteurs en théologie ou membres d'église, ont des lunettes colorées. Ils disent, vous savez, dans la Bible, il faut prendre ceci, il faut laisser cela. On se fait une petite Bible à sa mesure. C'est facile. C'est aussi ce que les sectes font. Mais il n'y a pas que les sectes. Il n'y a pas que les sectes. C'est vrai, nous devons le reconnaître. Je le redis. Le message de la Bible nous met très mal à l'aise dans notre peau. Je pense à l'histoire de ce petit groupe qui errait dans une vaste salle d'exposition de tableaux. Et dans ce groupe, il y avait un monsieur d'un certain âge qui, comme dans tous les musées du monde, avait envie de se faire remarquer. Vous savez, ces gens qui connaissent toute la peinture et qui, en général, parlent suffisamment fort pour que tout le monde sache dans la salle qu'ils sont fins connaisseurs. Et cet homme arrive devant un tableau et il est là devant ce cadre et dit « Oh, l'arrière-plan ne convient pas au sujet. Les traits de ce visage ne méritaient pas une peinture. Oh, avec cela, on ne risquait pas de faire un beau chef-d'œuvre. Et il continuait, et puis il y avait sa femme qui essayait de le tirer par derrière, discrètement, par la manche, pour lui dire quelque chose dans l'oreille. Mais plus elle tirait, plus il haussait le ton. Au bout d'un moment, elle n'y tenait plus, elle était sur le grill, elle finit par le rejoindre jusqu'à son oreille, et elle lui dit, « Mais voyons, chérie, ce n'est pas un tableau, c'est un miroir. » Eh oui, la Bible est un miroir. Est-ce que nous sommes prêts à nous regarder dans ce miroir et à accepter le verdict de Dieu sur notre propre nature? Il y a une autre réaction possible après celle du rejet. Et c'est une réaction qui a été empruntée par nombre de personnes de ce monde et nombre de mes contemporains. C'est l'essai d'obéissance. On fait des efforts pour s'améliorer. On se lance dans ce qu'on appelle couramment les bonnes œuvres. Ce que la Bible appelle d'ailleurs les œuvres de la loi. Et la Bible devient alors, que ce soit pour le bon catholique ou le bon protestant, peu importe, et je le dis très librement puisque je suis d'origine protestante, la Bible devient un code moral. Et il me souvient de mon enfance et de mon adolescence jusqu'à l'âge de 19 ans où j'ai fait ma bonne crise spirituelle et théologique, futur pasteur, je l'étais à cette époque, où j'entendais dimanche après dimanche ce que j'appelais simplement le sermon sur la montagne. Le bon code moral dans lequel doit vivre tout bon protestant. La religion des œuvres. Cette religion des œuvres qui conduit à deux attitudes. Chez les uns, elle engendre le désespoir. Elle engendre le découragement. Et les églises de notre pays, qu'elles soient catholiques ou protestantes, se sont vidés, précisément, à cause de ce type d'enseignement. Pourquoi? Parce que les hommes ne sont pas bêtes. Et parce que quand ils ont soif de vérité, bien sûr, ils essayent par tous les moyens d'obéir à ce qu'on leur enseigne comme étant la vérité de Dieu. Alors on leur dit de ne pas tuer, de ne pas mentir, de ne pas voler, etc. Alors ils essayent. Et s'ils sont honnêtes, s'ils sont intègres, il arrive un moment où ils se disent « Mais le curé, le pasteur ne me disent pas la vérité, ou bien alors ce qu'ils me prêchent ne marche pas. Le christianisme est faux. Ce n'est pas la solution à mes problèmes. La preuve, c'est que j'ai beau essayer d'aller dans cette direction, nous l'avons dit hier soir, ça ne marche pas. Le mal colle à ma peau. J'ai beau essayer de faire ce que monsieur le pasteur ou monsieur le curé me dit, c'est-à-dire ne pas me mettre en colère, tendre ma joue droite quand on me frappe sur la gauche, mais je n'arrive pas, c'est plus fort que moi, ça part avant même que j'ai réfléchi. Alors, en désespoir de cause, on fait ce qu'ont fait beaucoup de personnes, on jette le bébé avec son bain. C'est-à-dire on rejette Dieu, en rejetant tout l'enseignement que l'on a reçu. Et on dit, la Bible, Dieu, l'Église, tout cela, ça va dans le même sac. Ça ne marche pas. Le christianisme est comme toutes sortes d'autres religions, il ne me libère pas. Il y a les autres. Il y a les autres. Il y a ceux qui ont beaucoup de volonté, qui sont issus d'une lignée très religieuse, qui ont X prêtres, X pasteurs, X huguenots dans leur propre famille, et qui se réclamant de leurs ancêtres, très fiers d'être de ce peuple, sont aveugles sur eux-mêmes. Sont ce que nous appelons les propres justes. Ceux qui s'imaginent comme dans la parabole du pharisien et le publicain, n'avoir rien à se reprocher. Membre du conseil presbytéral, assis en bonne place, n'est-ce pas? Toujours sur leur 31 spirituel, jamais rien à se reprocher. C'est vrai que Jésus les appelle les pharisiens. ce sont ceux qui obtiennent un apparent succès dans l'exercice de leur volonté pour formellement, extérieurement, obéir à la loi de Dieu. Mais ils sont coincés. Ils sont coincés au même titre que les désespérés que nous pouvons être ce soir. Dans ce sens que la loi de Dieu a ceci de particulier, c'est qu'elle est parfaite. Et l'apôtre Paul le disait dans l'épître aux Galates, « Maudit est celui qui ne met pas en pratique toute la loi. » Nous parlions tout à l'heure du serment sur la montagne, et vous savez comment Jésus, reprenant quelques-uns des 10 commandements de ce sommaire de la loi dans l'Ancien Testament, a montré jusqu'où allait cette loi. Il ne s'est pas placé en porte-à-faux, en contradiction avec ces 10 commandements, mais il a voulu montrer jusqu'où Dieu allait lorsqu'il évoquait sa volonté. Tu crois que tu es bien ? Parce que tu n'es jamais tombé dans le lit d'une dame, tu ne peux pas t'imaginer ce que tu es moche. Parce que dis-moi, tu n'as jamais eu dans ta vie un regard de convoitise et d'adultère. Tu imagines que tu es bien parce que tu n'as jamais planté ton couteau ou envoyé une balle à l'ennemi d'à côté. Tu ne sais pas combien tu es pervers et mauvais, parce que la haine, tu la cultives, tu la distilles dans ton cœur, et elle est odieuse à mes yeux. C'est là ce que Jésus disait. La loi de Dieu est parfaite. Et la loi de Dieu a ceci de particulier, c'est qu'elle juge non seulement le geste, non seulement les apparences, non seulement le fait en lui-même, mais elle va jusqu'aux intentions du cœur, jusqu'aux pensées, jusqu'aux motivations les plus profondes. Maudit soit celui qui ne met pas toute la loi en pratique, non seulement dans ses actes, mais déjà dans le domaine de ses pensées. Et c'est ce qui a fait dire d'ailleurs à Martin Luther, la loi divine est un marteau qui réduit notre bonne conscience en miettes. D'ailleurs, nous n'avons pas le temps de le voir ce soir. Mais je pense à un texte absolument extraordinaire de l'apôtre Paul dans Romains au chapitre 7. Et dans ce texte de Romains 7, l'apôtre Paul raconte en quelque sorte une histoire en se servant de la législation à la fois juive et romaine dans le domaine du mariage. Et il imagine en quelque sorte, dans cette illustration, chaque homme, chacun d'entre nous, à partir du moment où nous avons été confrontés avec la loi de Dieu, comme nous le sommes ce soir, il nous imagine comme si nous étions mariés avec un monsieur qui s'appellerait Monsieur Loi. Imaginons que chacun d'entre nous, au lieu d'être homme, pour certains d'entre nous, nous soyons femmes. Je suis ce soir exceptionnellement Madame Decker, ma femme n'entend pas. Je suis en contact avec la loi de Dieu, je me suis mise à lire la Bible. Je suis travaillée dans mon cœur. L'apôtre Paul me dit, Madame Decker, j'ai l'honneur de vous dire que vous êtes en ce moment marié avec un monsieur qui s'appelle Monsieur Loi. J'essaye d'obéir à Monsieur Loi. J'essaye de former un bon ménage avec mon cher mari Monsieur Loi. Oh, c'est difficile. L'apôtre Paul dit c'est très difficile. C'est même impossible parce que Monsieur Loi c'est un mari impeccable. Toujours sur son 31. Non seulement il est impeccable, mais il est capable parfaitement de faire n'importe quoi. Il est de ces maris très difficiles à vivre. Vous avez des maris, parfois des épouses aussi d'ailleurs, disons-le au passage, avec lesquels il est très difficile de vivre. Quand vous marchez sur les pieds, il faudrait marcher sur la tête, et quand vous marchez sur la tête, il faudrait marcher sur les pieds. Il y a des épouses comme ça qui font des dépressions parce qu'elles ont un mari qui n'est jamais content. C'est un peu à cette situation que fait allusion l'apôtre Paul. Continuellement, Monsieur Loi me dit, ma chère épouse, ça c'est mal fait. Oh, Monsieur Loi ne me parle pas méchamment, il n'a pas besoin de hausser le ton, il me dit très simplement et très gentiment, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, tu devrais faire comme ça. Je me réveille la nuit, j'entends encore Monsieur Loi à côté qui me dit c'est pas bien. Alors je finis par vivre dans l'insomnie. Et alors c'est encore pire, toute la nuit, c'est pas bien. Et alors vous savez ce qui se passe dans ces situations? Mais il arrive un moment, et ça, ça arrive dans le monde, au niveau des couples, où Madame Decker, elle se dit ceci, mais, ah, si seulement mon mari pouvait faire un bon infarctus, vous savez, première classe avec supplément, hein, il reste sur le carreau. Mais il y a un problème. C'est que Monsieur Loi a une santé parfaite. Jésus et l'apôtre Paul, répétant Jésus, disaient, mais la loi, elle est sainte, elle est bonne, et il ne disparaîtra pas de cette loi la plus petite lettre de l'alphabet grec, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'elle soit entièrement accomplie. Les cieux et la terre ne disparaîtront pas, n'est-ce pas? La loi demeure. Elle a une santé fantastique. Pas question pour elle d'aller un seul instant prendre un médicament. Vous vous rendez compte de mon problème? À moi, Madame Decker? D'autant plus que quand je vais faire les courses dans les rues de mon petit village, je vais au supermarché du coin, je remplis mon sac à provisions, il est tellement lourd à porter. Et ne voilà-t-il pas qu'il y a là un monsieur très charmant qui se propose de m'aider à le transporter, qui m'aide aussi à traverser la rue, parce qu'il y a beaucoup de monde, j'ai quelques frousses, n'est-ce pas? Et chaque fois que je sors dans la rue faire ceci ou cela, il est là. Il me fait la cour. Mais très sympathique. Toujours gentil, courtois, jamais trop osé. Toujours aussi sur son 31, bien habillé, sans bon, il a bonne allure. Pas moyen de le prendre en défaut. Mais curieusement, ce monsieur-là, j'aurais tellement envie de le connaître mieux, je dirais même que j'ai des sentiments que j'ose à peine avouer, j'aimerais tellement tomber dans ses bras et pouvoir l'épouser. Mais, il y a Monsieur Loi. Vous voyez que la Bible est intéressante. Lisez Romains 7. Un grand roman d'amour. Et c'est là alors qu'apparaît le miracle. Comment Dieu nous a donné la solution pour sortir, transformer de cette confrontation, de ce mariage douloureux, impossible, sans espoir. Si Monsieur Loi ne veut pas mourir, et que je désire pourtant me marier avec cet autre monsieur qui m'apparaît si sympathique, qui m'aide tant, qui m'encourage, que je ne peux jamais reprendre en faute, mais qui est tellement agréable, il n'y a qu'une seule solution. C'est que je sois délié de mon engagement vis-à-vis de Monsieur Loi. Pas question de divorcer. Alors je n'ai qu'une seule solution, c'est de mourir. Et de ressusciter. Et c'est là alors que l'apôtre Paul va vers la doctrine et explique comment, lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, à cause de la condamnation due à la loi qui pesait sur chacun d'entre nous, nous sommes morts avec lui. Notre vieille nature a été clouée sur la croix. Et puis dans sa résurrection, en sortant du tombeau, en quelque sorte le Christ nous a ressuscités, nous donnant cette nouvelle nature que nous avons chantée ce soir. Et une fois que nous sommes passés par la mort, une fois que nous avons renoncé à notre vie passée, qu'il y a eu une rupture, que nous avons subi dans la personne de Christ cette condamnation à cause de la loi, nous sommes dégagés de la loi. Et nous pouvons désormais épouser cet autre monsieur qui nous faisait la cour jusque-là, c'est-à-dire la personne de Jésus-Christ. Dégagé de la loi pour vivre avec le Christ. Alors, et nous allons vers la fin de notre réflexion ce soir, il n'y a qu'une seule solution, qui soit la bonne. Et elle ne nous plaît pas. Nous sommes prêts à remuer des montagnes, à faire n'importe quoi. Tous les grands systèmes religieux du monde et les systèmes sectaires sont basés sur la religion des œuvres. L'homme est prêt à faire n'importe quoi, pourvu qu'on lui demande d'œuvrer dans la direction de son salut. Et pourvu qu'on ne lui demande pas la seule chose que Dieu demande, c'est de plaider coupable. Ça, c'est la juste attitude. Plaider coupable. Reconnaître mon cœur mauvais. Reconnaître mon incapacité à vivre selon le standard de Dieu, selon la loi de Dieu. Je reconnais, ô Dieu, devant chacun de tes commandements, que je les ai transgressés. Que je n'ai pas en moi les ressources, la force de vivre dans cette direction du bien. Nous parlions hier soir de Platon et de ce tiraillement, de cet écartèlement comme Ravaillac, n'est-ce pas ? Écartelé entre le bien et le mal. Mais le mal étant finalement toujours triomphant, en dernier ressort. Et alors au moment où nous plaidons coupables, au moment où nous disons « j'ai tort », au moment où, comme la Bible le dit, nous confessons, c'est-à-dire nous disons « comme Dieu », « comme la loi de Dieu », au moment où nous soussignons la loi de Dieu, en étant d'accord avec elle, il se passe un autre miracle. C'est que la loi de Dieu change de visage. Dans cette même épître aux Galates, au chapitre 3 et au verset 24, il est dit que la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Jésus-Christ. La loi est comme un pédagogue pour nous conduire à Jésus-Christ. Non pas le pédagogue de 1986, non pas l'enseignant. Mais le pédagogue, c'était à cette époque l'esclave, qui simplement prenait l'enfant de son maître par la main et qui l'accompagnait, qui le conduisait jusque chez le précepteur, qui même s'asseyait éventuellement dans la salle, surveillait l'enfant pendant que le précepteur donnait la leçon et qui, une fois la leçon terminée, ramenait l'enfant auprès de son maître. La loi a été comme un pédagogue pour nous amener jusqu'à Jésus-Christ. J'aimerais, pour l'expliquer, vous raconter une expérience personnelle. Et ce soir, dans mon cœur, pendant que nous venions vers ce lieu de réunion, je jubilais intérieurement. Tout simplement parce que sans le savoir, ma voisine qui conduisait la voiture et d'autres dans cette même voiture parlaient de procès verbal dus à des feux que l'on avait grillés, tout simplement parce que nous avons passé un feu qui tournait du vert dans une autre direction. C'était du tout juste. Vous savez, c'est toujours plus gênant quand on a un serviteur de Dieu à côté de soi dans ces cas-là. Il paraît, hein. Alors, on s'est lancé dans de grands entretiens et je jubilais tout simplement parce que j'avais prévu de vous raconter ce soir une expérience dans ce domaine. C'était en 1974. J'étais à l'époque pasteur en Bretagne, dans la jolie ville côtière de Paimpol. J'aime Paimpol et sa falaise. Et sa Paimpolaise aussi, puisque c'est là-bas que je me suis marié. Et en 1974, nous étions un dimanche jusqu'à Rennes, à 150 km de là, pour vivre un moment de fête avec une église évangélique qui inaugurait sa nouvelle chapelle. Et nous avions vécu des moments délicieux. Et nous étions sur le chemin du retour vers Paimpol. Nous étions 5 dans la voiture, je conduisais allègrement et nous chantions dans notre joie les beaux cantiques. Quand subitement, mes deux cordes vocales là, se sont coincées dans mon gosier. Tout simplement parce que j'ai vu, dans ce qu'on appelle en Bretagne la douve, le fossé au bord de la route, j'ai vu un casque. Et sous le casque, il y avait une tête. Et sous la tête, il y avait un uniforme. C'était un gendarme, un motard de la gendarmerie nationale. Oh, ça ne glace pas forcément, mais ça m'a glacé parce qu'il a fait un geste que je n'aime pas beaucoup. Il m'a fait un signe que j'ai immédiatement interprété sans aucun problème, mais vous comprenez pourquoi ma voix s'est coincée à quelque part. Et je savais très bien pourquoi il m'arrêtait. Ça rassure notre sœur, n'est-ce pas, qui conduisait la voiture tout à l'heure. J'ai arrêté la voiture sur le côté et tremblant dans mes culottes, je suis sorti et je me revois, les mains dans le dos, sans doute, comme un écolier pris en faute, en face de, pardon de le dire, cette armoire à glace. Vous savez, ils ont le physique de l'emploi, hein? Grand, bien sanglé dans son uniforme, et qui me regardait beaucoup plus grand que moi, pourtant je ne suis pas très petit. Et je l'entends encore, cet après-midi-là, me dire simplement ces deux mots, « Et alors ?» Et je crois lui avoir répondu à peu près ceci, « Eh oui !» Et me regardant du haut de ses presque 2 mètres, il a commencé à me poser un certain nombre de questions, mais il a introduit généreusement, par un hors-d'œuvre très appréciable, « Vous savez, monsieur, je vais devoir verbaliser. » Et je savais que, étant donné la faute que j'avais commise, non seulement ça allait me coûter des sous, mais je risquais fort de passer au tribunal. Alors il a commencé à me poser des questions. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, mais vous savez que le temps, c'est très relatif. Ça va parfois très vite, ça va parfois très lentement. Et il m'a posé des questions comme celle-ci, par exemple. « Monsieur, sur quelle distance est-ce que vous avez franchi la ligne médiane ?»« Monsieur, 15 à 20 mètres. » »« Oui, c'est exact. » Et je dirais en langage courant qu'il m'a cuisiné pendant un petit moment, saupoudrant sa cuisine de quelques « Monsieur, je vais devoir verbaliser. » Et au bout d'un moment, est arrivé le moment, l'instant fatidique, lorsqu'il m'a dit « Montrez-moi vos papiers, s'il vous plaît. » Alors j'ai dit « Ça y est, on y va, tout droit. » Alors j'ai sorti mes papiers. Je peux vous assurer qu'on priait dans la voiture. Il y a des moments où on prie. Il a regardé mes papiers, il m'a regardé, il m'a toisé du regard. Il m'a encore posé une ou deux questions. Et finalement, il m'a dit, « Monsieur, ça va. Vous pouvez aller. » Vous savez ce que j'ai eu envie de faire à ce moment-là? J'ai eu envie de lui sauter autour du cou et de lui donner 2 gros bisous. Mais peut-être qu'il m'aurait mis le procès à ce moment-là. Alors, aussi dignement que possible, je suis retourné vers la voiture. Nous avons repris la route. Et je vous assure que je tremblais encore comme une feuille en conduisant. Et Dieu, à ce moment-là, m'a interpellé. Dieu m'a posé un certain nombre de questions, à son tour. Et il m'a dit tout d'abord ceci, à peu près, hein, je résume. Maurice, est-ce que tu es d'accord que tu as transgressé la loi? Que tu as péché? J'ai dit, oh oui Seigneur, oh oui Seigneur, parce que même en grec dans le Nouveau Testament, il y a un mot spécial pour péché, c'est passer la ligne. J'avais péché. Tu es d'accord, Maurice, de reconnaître que tu es un meurtrier en puissance? Tu aurais pu effectivement tuer quelqu'un. Oui, Seigneur, je suis d'accord. Et tu plaides coupable? Oui, Seigneur, je plaide coupable. Maurice, est-ce que tu as réalisé pourquoi ce motard de la gendarmerie t'a posé ces questions? Oh oui, Seigneur, c'était un fin psychologue. Ce qu'il voulait, le motard de la gendarmerie, c'est que je ne triche pas avec la loi. Si je lui avais dit, mais monsieur le motard, vous êtes très gentil, j'ai franchi la ligne sur 25 centimètres et demi. Il me l'aurait mis le PV. Ce qu'il voulait, c'est que je dise la vérité. Même si cela aboutissait au tribunal. Il fallait que je confesse, que je reconnaisse, que je plaide coupable, sans tricher. Alors, Dieu m'a dit, mais tu as compris le message à travers ce qui s'est passé dans le cœur de cet homme? J'ai dit, oui, Seigneur, j'ai compris une chose. La loi a été comme un pédagogue pour me conduire à toi. À partir du moment où j'ai plaidé coupable, où j'ai reconnu ma faute, c'est pas toujours comme ça avec les gendarmes, heureusement d'ailleurs. Mais à partir de ce moment-là, je n'ai plus vu l'uniforme de ce motard. Quand il m'a dit, vous pouvez aller, c'était plus un motard, c'était devenu un ami. Son casque ne m'inquiétait plus. Son vêtement ne m'inquiétait plus, son uniforme, ni sa stature, ni son regard. Il s'était transformé en un autre personnage. C'était désormais quelqu'un qui me faisait grâce. Il me libérait. Il me laissait aller. Et j'ai réalisé cet après-midi-là que Jésus avait fait beaucoup plus que cela. Parce que ce motard, ben, il est reparti comme si de rien n'était. Et peut-être qu'il a mis 10 PV. Et il pouvait même éventuellement bien sucrer après pour se rattraper. Ça ne changeait rien à sa vie. Mais par contre, le Christ, celui vers lequel la loi nous conduit lorsque nous plaidons coupables, le Christ, c'est vrai, nous dit « je vais devoir verbaliser ». Mais à notre grande surprise, le Christ vient au tribunal, et au moment où nous sommes condamnés, où le verdict va être prononcé par le juge, le Christ se lève, là, dans la salle, et dit, monsieur le juge, arrêtez, c'est moi qui vais aller en prison, à la place de Maurice Decker. Inscrivez le procès à mon nom. Je plaide coupable à sa place. Je paye pour lui. Bien sûr, dans la mesure où il est d'accord. Maurice, est-ce que tu es d'accord que j'aille en prison à ta place? Oh oui, Seigneur. Oh oui. Vas-y. Ah, le Christ respecte notre liberté. Il nous pose la question. Nous devons répondre clairement, que nous soyons catholiques, que nous soyons protestants, que nous soyons agnostiques, qui que nous soyons, nous devons répondre clairement. Parce qu'il nous pose la question. Et si nous répondons oui, en plaidant coupable, sans tricher, en confessant, en disant oui, je suis coupable devant toi, tu me dis ceci, je l'accepte. À ce moment-là, le Christ nous rappelle, parce qu'il est vivant aujourd'hui, ce soir, qu'il a accepté d'aller dans la prison de la mort à notre place. Il a pris sur lui la condamnation qui pesait sur chacun de nous. Le Christ, nous dit l'Épître aux Galates, est devenu malédiction à notre place, afin que nous ne soyons plus maudits. Mais vous me direz, mais comment est-ce que je sais que je suis libéré? Oh, c'est très simple. Je sais que je suis acquitté. Je sais que je suis innocenté. Je sais que je suis considéré comme si je n'avais jamais fauté. Parce que c'est ça ce que Dieu fait en Jésus-Christ. Il me considère comme si je n'avais jamais fauté. Mais je le sais parce que Jésus-Christ n'est pas resté dans la prison de la mort. Hein, imaginez que ça me soit arrivé, que je sois allé au tribunal, et qu'au tribunal le juge ait prononcé le verdict: Maurice Decker, vous êtes condamné à passer 3 jours en prison. Que quelqu'un se lève dans la salle: écoutez, monsieur le juge, moi je veux aller en prison à la place de Maurice Decker. Alors on regarde s'il n'y a pas de casier judiciaire, s'il n'y a pas quoi que ce soit, n'est-ce pas, qui empêche. Et le juge, ayant fait constater la chose, dit: bon, écoutez, vous n'avez rien à vous reprocher aux yeux de la loi, d'accord. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que dans les 3 jours qui vont suivre, Maurice Decker ne vivra plus. Pourquoi? Bien, cette fois-ci, je vais craindre que celui qui me remplace dans la prison fasse un infarctus. Parce que s'il fait un infarctus, au bout d'un jour, on va venir frapper à la porte chez Maurice Decker. Monsieur Decker, celui qui est allé en prison à votre place, il est à l'hôpital, en prison. C'est pas payé. Votre dette n'est pas réglée vis-à-vis de la justice, vis-à-vis de la loi. Alors, pendant 3 jours, je vais être sur des braises ardentes. Mais le troisième jour, à la fin du troisième jour, quand je suis dans la rue et que je vois sur l'autre côté de la chaussée celui qui était en prison à ma place, qui vient vers moi, oh, que je respire, il est sorti de prison, il est vivant, il a payé, et il va peut-être me prendre par la main, il va me conduire comme cela se faisait jadis à l'époque de Jésus à la porte de la prison, et il va me montrer un écriteau, parce qu'on mettait un écriteau. On mettait le nom du coupable, on mettait la peine pour laquelle il était condamné, et puis quand il avait payé sa peine, on traçait un trait en travers, et on mettait un petit mot, payé, qu'on trouve sur toutes sortes de papyri, sur toutes sortes de documents officiels dans le domaine commercial, par exemple. Et ce petit mot, savez-vous que c'est exactement le petit mot que Jésus a prononcé en mourant sur la croix, accompli. Alors il m'emmène là, il me dit, tu vois, c'est marqué, c'est barré en travers, accompli, payé, tu es libre. Et c'est ce que Jésus dit, c'est ce que la Bible nous dit. Je sais que je suis justifié, je sais que je suis innocenté, je sais que je suis pardonné. Je sais que je suis lavé de mon passé. Je sais que je peux avoir une relation avec Dieu, changer de vie, parce que Jésus est sorti de la prison de la mort. Il a expié ma dette jusqu'au bout. Dieu a été satisfait. Et si Dieu n'avait pas été satisfait par la mort du Christ, jamais le Christ ne serait sorti de la prison de la mort. Mais au bout de 3 jours, le Christ est ressuscité. Et c'est ce qui transforme notre vie, n'est-ce pas? On ne peut pas dissocier le vendredi saint du jour de Pâques. Quelle joie! Quelle joie de savoir que la loi ce soir est un pédagogue pour nous conduire vers Christ. Dans la mesure où, vraiment, clairement, nous acceptons de plaider coupable. Permettez-moi de prendre juste 2-3 minutes pour répondre, surtout pour les croyants aussi, à une dernière question. Mais alors, une fois que j'appartiens à Christ, une fois que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, est-ce que je vais devoir alors ensuite continuer à batailler pour essayer d'obéir de toutes mes forces à la loi de Dieu? C'est une question. Permettez-moi de donner la réponse brièvement par une autre petite illustration tirée de mon expérience. Quand j'étais pasteur en Bretagne, à Paimpol, il y avait beaucoup de marins. Et dans notre église, il y avait d'ailleurs plusieurs marins, des marins au long cours, qui naviguaient entre autres sur les grands pétroliers. Et il m'a été donné d'ailleurs de visiter ce qui était le plus grand pétrolier de cette époque, avec un des membres de notre église qui était officier sur ce bateau. Et j'étais impressionné. 12 étages de hauteur, avec ascenseur. Extraordinaire, ce mastodonte. Alors vous savez, les marins au long cours ont un régime particulier. 100 jours en mer pour 50, 54, 60 jours à terre. C'est dur pour les épouses, c'est dur pour les enfants. Ce qui fait que lorsque le pétrolier, pendant une de ses traversées, s'arrête pour 48 heures dans un des grands ports pétroliers de France, à Fos-sur-Mer, au Havre-Antifer, l'épouse va vite faire un saut jusqu'au bateau pour voir son mari. Elle va passer ses 48 heures avec lui, avant qu'il reparte plus loin vers le golfe Persique. Et une des membres de notre église était ainsi allée un samedi rapidement voir son mari sur son pétrolier géant au large du Havre. Elle était arrivée au Havre et la mère était en mauvais état. Elle avait mauvaise allure, mauvais caractère, si bien qu'on a demandé à cette frêle jeune dame de monter sur une petite coquille, un petit bateau à moteur qui l'amènerait péniblement jusqu'à ce grand pétrolier. Et elle m'a raconté comment elle avait été toute remuée par ce voyage, ayant un terrible mal de mer, et je l'ai eu quelquefois en faisant plusieurs traversées. C'est désagréable. Et puis elle est arrivée là, dans sa petite coquille, au pied de ce grand bateau. Et les bons marins bretons, bien rugueux, de l'interpeller depuis le pont en lui disant « Écoutez, madame, il faut grimper. » Ouais. Il y avait une sorte d'échelle, n'est-ce pas, de fer prise dans cette masse. Et il fallait grimper. Alors, il y avait quelqu'un qui allait pousser en dessous, n'est-ce pas, on ferait tout ce qu'il faudrait faire. Mais cette femme était affolée à l'idée de devoir monter quand on sait ce qu'est cet immense pétrolier. Elle était malade, elle a regardé là-haut, affolée, quand elle a vu la tête de son mari. Alors elle lui a crié, « Chérie, je peux pas !» Alors son mari l'a regardé et lui a dit, « Chérie, attends !» Et on a vu, un moment plus tard, une sorte de nacelle descendre le long des flancs du pétrolier et s'approcher jusqu'à elle. Un marin bien robuste a empoigné cette frêle femme, l'a installée dans la nacelle, et la voilà qui remontait doucettement, secouée par le vent, et qui voyait sous son nez défiler les barreaux de l'échelle. Et elle me racontait en larmes comment elle était tombée dans les bras de son mari sur le pont du bateau au moment des retrouvailles. Et il se trouve que ce samedi-là, je préparais justement un message sur la loi dans la vie du croyant. J'avais trouvé mon illustration. Une fois que nous appartenons à Jésus-Christ, il ne s'agit pas d'essayer de monter sur le pont du bateau, ce pont de la volonté de Dieu, en essayant par ses propres forces d'escalader chacun des barreaux de l'échelle. Imaginez qu'il y en ait 10 comme les 10 commandements, non? Ce qui est beau, et je le dis aussi à l'adresse de ceux qui ne sont pas encore à Christ, c'est que Dieu nous a envoyé une nacelle. Cette nacelle n'est pas une chose, c'est son esprit. Dieu est descendu en Jésus-Christ par son esprit pour venir habiter dans le cœur de l'homme. Et quand nous naissons de nouveau, tu peux naître de nouveau, c'est ce moment sublime, unique dans notre histoire, où cette nacelle du Saint-Esprit, en quelque sorte, s'offre à nous, où Dieu nous invite à entrer, à monter dans la nacelle, c'est-à-dire à recevoir en nous, par cette habitation permanente du Saint-Esprit dans notre vie, toute la force, toute la puissance, toute l'énergie nécessaire pour accomplir la loi de Dieu jour après jour.